RFI, grand reportage,
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. 9 ans après le massacre du 28 septembre en Guinée, les victimes attendent toujours l'ouverture d'un procès. En 2009, les militaires alors au pouvoir avaient brutalement réprimé un rassemblement de l'opposition au stade du 28 septembre. Au moins 157 personnes avaient été tuées, plus de 100 femmes violées. Aujourd'hui, la majorité des 13 inculpés occupent toujours des fonctions officielles. Les victimes, elles, ont le sentiment que l'impunité persiste et il leur est toujours difficile de parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Là, 28 septembre 2009, la maladie du silence, un grand reportage de Anne Cantner.
Je suis venue une fois, mais je ne suis pas venue jusqu'ici. Je passe, je ne rentre pas là-dedans. Parce que des fois, quand je vois ici, en passant même, je regrette. J'ai envie de pleurer, quoi.
Il aura fallu plus de 8 ans pour que Fanta ose revenir au stade du 28 septembre. En 2009, elle faisait partie des milliers de personnes réunies pour réclamer des élections sans Moussa Dadis Camara. Contrairement à ce qu'il avait promis en prenant le pouvoir 10 mois plus tôt, le capitaine Dadis envisage finalement de se présenter à l'élection présidentielle. L'opposition appelle alors ses partisans à manifester le 28 septembre. Le rassemblement est interdit par la junte au pouvoir, mais dès les premières heures de la matinée, les rues de Conakry sont déjà bondées et tous les manifestants convergent vers le stade.
Si c'est ouvert, on peut rentrer.
De retour sur les lieux, Fanta se souvient de cette matinée.
Tout est plein. Il n'y a même pas où s'asseoir. Tout était rempli. Je suis montée par là.
L'escalier qui est là ?
Oui, c'est là-bas que j'ai monté. Parce qu'il y avait assez de monde, tu ne peux même pas rentrer. C'est rempli. On tapait les mains, on dansait. On avait la joie. On était contents. Tout le monde disait « changement, changement, changement ».
Peu de temps après l'arrivée des leaders de l'opposition, les slogans et les chants sont interrompus par des tirs. Les rares images tournées grâce à des téléphones portables témoignent de la stupéfaction qui a frappé les manifestants. Ils sont nombreux à avoir d'abord cru entendre des pétards, à ne pas avoir compris que les balles étaient réelles et qu'elles commençaient à blesser et à tuer. En quelques instants, les militaires, accompagnés d'hommes en civil, prennent possession des lieux. Ils tirent à bout portant, ils frappent, raquettent et violent. Une centaine de femmes sont violées, sans doute plus, car aujourd'hui encore, le sujet est tabou et certaines victimes n'osent pas témoigner. Les violences ne se sont pas limitées au stade. Plusieurs femmes ont été enlevées, conduites dans des camps militaires ou dans des maisons où elles ont été violées pendant plusieurs jours. Une fois de retour chez elles, les survivantes ont souvent été mises de côté, abandonnée par leur mari, comme Assiatou, qui vit seule aujourd'hui avec ses 5 enfants.
Ça m'a touchée beaucoup.
Dans votre famille, vous, ils vous ont soutenue ?
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Même mon mari m'a laissé tomber. Il m'a dit que comme il y avait des gendarmes avec le militaire, ils sont pères. Ça m'a laissé comme ça avec mes enfants.
Toutes les victimes de viol que nous avons rencontrées décrivent le même sentiment d'abandon et de honte, à tel point que plusieurs jeunes filles refusent de faire des tests de dépistage ou de parler de ce qui leur est arrivé. Aïssatou a toujours gardé ce secret pour elle.
Je suis allée moi-même à l'hôpital. Je n'avais rien dit à ma famille. Là-bas, je n'ai pas pris de certificat médical et je leur ai demandé de ne rien dire à personne. Je ne voulais pas que les gens au quartier disent que j'étais parmi les filles violées au stade. Ça peut faire qu'on ne trouve pas de mari. Aujourd'hui, je ne suis pas mariée. Les gens savent qu'on a été au stade et même s'ils n'ont pas toute l'histoire, par exemple, il y a des gens qui viennent pour me demander en mariage. Mais dès qu'ils apprennent que j'étais au stade, l'histoire s'arrête là. Ils ne reviennent plus.
Cette stigmatisation sociale conduit de nombreuses victimes à se taire. Aujourd'hui encore, certains mettent en doute les chiffres établis par les Nations Unies. Dans les jours qui ont suivi le massacre en 2009, les autorités ont estimé que ces allégations de viol étaient invraisemblables. Aujourd'hui encore, on entend parfois certains expliquer que le viol est étranger à la culture guinéenne et qu'il est difficile d'imaginer qu'autant de femmes aient été agressées. Alors, les femmes se taisent.
C'est un peu difficile pour nous, les victimes, de dire tout.
Saran était présente au stade le 28 septembre 2009.
Quand ton enfant te voit, il peut soupçonner. Il va dire oui, sûrement, ce que j'ai entendu se passer là, peut-être ma soeur ou ma maman a vécu ça. Mais parce qu'elle n'a pas dit, il se pose des questions. Mais s'il entend réellement ce qui s'est passé, c'est un peu difficile pour l'enfant de supporter, nous, chez nous, en Afrique. C'est pourquoi les victimes ne peuvent pas vous dire tout dans les médias. Ce n'est même pas pour nous les victimes, mais c'est pour nos enfants, la famille. Il y a des choses qui nous empêchent de le dire. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre qu'ils ont été victimes. Beaucoup de femmes qui ont des co-épouses. Quand tu as co-épouse, il y a des femmes qui ont deux, trois co-épouses. Maintenant, si les gens l'entendent, que toi, tu as été violée par un militaire inconnu. Quand tu parles ça, tu ne vas pas durer longtemps. Parce que la honte, les menaces, tes paroles, c'est ce qui va te tuer. Avant même si tu es malade, avant que la maladie t'emporte. Donc c'est pourquoi les gens ne parlent pas. Et ce qui fait mal aussi, c'est quand tu as un problème seul, que tu n'arrives pas à partager avec quelqu'un, ça fait mal. Et c'est ce qui ronge beaucoup de femmes actuellement. Il y a deux maladies que les femmes victimes ont actuellement. Maladie de silence. Et maladie de leur corps.
Cette maladie du silence ne concerne pas seulement les femmes violées. Pendant des années, l'enquête est restée au point mort. L'instruction n'a été clôturée qu'à la fin de l'année 2017, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre. À ce jour, aucune enquête aboutie n'a été menée concernant les personnes disparues et les fosses communes. Dans l'après-midi du 28 septembre, plusieurs manifestants ont vu des militaires récupérer des corps au stade. Certains ont même été obligés d'y contribuer, de transporter les manifestants tués dans des véhicules de l'armée.
J'ai reçu un coup de fil.
Tout au long de la journée, les militaires ont dirigé les opérations de soins et de récupération des corps, comme en témoigne le docteur Hassan Ba, médecin légiste.
J'ai reçu un coup de fil d'un médecin militaire. Et qui m'a informé, qui m'a dit « Ah, docteur, est-ce que vous êtes au service ?» Je lui ai dit « Non ». Il dit « Bon, venez parce qu'il y a beaucoup de décès suite à la manifestation du 28 septembre. » Aucune explication, on m'a seulement dit que bon, étant le premier responsable de la médecine légale, de venir et de prendre des dispositions pour la conservation de ces corps. Et c'est aux environs de 19h qu'on a déposé des corps dans un camion militaire. Voilà. Et donc on a pris les corps, on a pris les dispositions pour que les corps soient mis dans la chambre froide.
Il y avait beaucoup de corps ?
Bon, oui, on avait en tout cas plus de 10, une quinzaine de corps à l'époque, parce qu'on a mis les corps en chambre froide, et la capacité de la chambre froide étant de 10 corps, donc on ne pouvait pas garder plus, hein, parce qu'il y a des chambres où si les corps sont de petite taille, on a mis 2 corps. Hein, alors, et le reste du corps a été transporté à Donka.
Et vous savez combien il y avait en tout ?
En tout, non, je ne me souviens plus. Hein. Bon, je crois en tout cas qu'on est là, pas plus de 20 à l'époque. On a reçu immédiatement après.
L'accès aux morgues a été interdit après le massacre. Les familles de victimes ont dû attendre plusieurs jours pour pouvoir identifier leurs proches.
Maintenant, le problème qui s'est posé par la suite, par rapport à la restitution des corps, c'est que malheureusement, on n'avait pas pris les dispositions pour recueillir les données antémortem. Donc les corps ont été déshabillés, les pièces qu'ils avaient étaient tout... Parce que le seul souci qu'on avait à l'époque, c'était « Ah, on a autant de corps, on n'a pas suffisamment de place où les mettre. » C'était ça notre souci. Et donc, on s'est mis à déshabiller les corps, à faire la toilette funèbre de ces différents corps et à les mettre en chambre froide. C'est plus tard maintenant qu'on s'est confronté au problème d'identification et de restitution des corps. Donc ce qui fait qu'on était obligé vers la fin d'exposer les corps au niveau de la grande mosquée Faisal et pour demander aux familles de faire une reconnaissance visuelle des corps.
Mais lorsque les corps ont été présentés à la mosquée Faisal 4 jours après le massacre commis au stade, Beaucoup se trouvaient dans un état de décomposition avancée. Près de la moitié des victimes n'ont pas pu être identifiées et ont été enterrées par des volontaires au cimetière voisin.
Il y a eu tellement de morts, on ne pouvait même pas compter. Moi, j'avais même des vertiges. Enfin,
s'il y a eu des troubles ce jour-là, c'est aussi parce qu'un certain nombre de familles n'ont pas retrouvé leurs proches. Et pour cause, les militaires ont caché des corps, comme le racontait un béret rouge de manière anonyme sur RFI quelques semaines après le massacre.
Dans la nuit du lundi, ils nous ont dit d'aller récupérer les corps et on a récupéré environ 37 corps qui ont été enfouis. Mais là, je ne peux pas dire à quel endroit vraiment.
Les chiffres avancés par ce militaire sont largement supérieurs au bilan établi par la commission d'enquête désignée par la junte. Dans son rapport, rendu en janvier 2010, elle faisait état de 63 morts. Les Nations Unies en ont compté 157 et accusent les autorités de l'époque d'avoir voulu dissimuler le nombre de victimes en les enterrant dans des fosses communes. Un manifestant peut en témoigner. Il a vu les militaires emmener des corps. Le jeune homme, blessé à la tête, a perdu connaissance au stade et il est revenu à lui quelques heures plus tard. Encore traumatisé par son expérience, il souhaite la raconter de manière anonyme.
Je me suis retrouvé qu'au niveau de là où ils ont commencé à jeter les gens. Et je ramasse les corps, je mets dans le camion. Je suis dans le camion avec les morts. Je ne vois rien, je suis dans le camion. C'est les morts.
C'est à ce moment-là que vous avez repris conscience?
La nuit, le camion est allumé. Une destination inconnue.
Le jeune homme s'interrompt à plusieurs reprises, notamment au passage d'une voiture militaire. Il reprend, après de longues minutes, le récit de cette nuit où des militaires l'ont découvert parmi les cadavres, tellement surpris par la torche braquée sur lui que le jeune homme s'est mis au garde-à-vous.
Quelqu'un n'est pas mort. Il y a un qui n'est pas mort. Ils ont discuté chaudement. Ils savent. Ceux qui ont fait ça, ils savent. À qui ils ont fait? À qui ils ont discuté ces jours? Pour ne pas le mettre avec dans ça. Ils savent. Ils savent. Je ne suis pas descendu.
Vous êtes resté dans le camion?
Je suis resté dans le camion. Les morts sont descendus. Juste avec les morts.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait après?
Ils sont bien bloqués. Peut-être pour ne pas qu'ils sortent. Ils fuirent.
Les militaires ramènent ensuite le jeune homme au quartier général de la junte.
Quand j'écris, on me frappe. Le lendemain de nuit, ils m'ont jeté derrière la cour. Dans la nuit profonde, j'avais un vêtement, tout est du sang. C'est mon sang ou c'est le sang des morts?
Plusieurs témoins ont raconté avoir vu des militaires enterrer des corps la nuit du 28 septembre. Des sites ont été repérés, dont certains se trouvent sur des terrains militaires, mais aucune investigation n'a été ordonnée, ni par la junte au pouvoir en 2009, ni par les gouvernements suivants. En attendant l'ouverture d'un procès qui pourrait permettre d'établir des responsabilités, la plupart des personnalités inculpées occupent toujours de hautes fonctions administratives ou militaires. L'impunité persiste, résument les victimes. Assiatou s'interroge aujourd'hui encore sur les événements du 28 septembre.
Je pose la question, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça. Peut-être ils ne sont pas pères, ils sont libres de faire ce qu'ils voulaient. Il n'y a personne qui l'a embêté. L'important pour moi, c'est que les gens là soient punis. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec nous, ce n'est pas bon. Mais si les gens là sont punis, là, je suis content.
Comme elle, Saran, autre victime du massacre, s'étonne du sentiment de toute puissance qui habitait les militaires au stade.
Les manifestants qui étaient là-bas, c'est comme si c'était des biens. Comment je peux dire ça? Vous savez, le sac là m'appartient. Donc je fais ce que je veux avec mon sac. Parce que c'est pour moi, ça m'appartient. Donc c'était comme ça. Les manifestants, c'était des biens personnels pour eux. Ils nous faisaient ce qu'ils veulent, sans arrière-pensée.
Les responsables politiques, eux aussi, se disent toujours sous le choc. Sidya Touré, du parti Union des Forces Républicaines, se souvient d'avoir parlé au président de la junte la veille de la manifestation.
À la fin, il a dit oui, que lui ne permettra jamais cela. Bon, J'étais en train de... Je n'imaginais pas hein, ce qui allait arriver. Puis je me disais, mais comment il ne peut pas permettre? De toute façon, on sera dans la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Bon.
Des années plus tard, l'opposant ne comprend toujours pas comment la répression a pu être aussi violente.
Les scènes que j'ai vues sont pour moi ce qu'il y a de plus terrible. Cette déshumanisation, je n'arrive pas à l'accepter. Ça, c'est ce qui me reste, à mon sens, le plus dramatique de cette journée du 28 septembre. Plus dramatique.
Comment ça a pu être possible, selon vous, justement, qu'on arrive à un tel niveau de violence?
Alors là, je dois avouer, je me suis toujours posé cette question. Je me suis posé cette question et puis je me suis demandé... Est-ce que nous n'avons pas puisé ça plus longtemps? Ce pays a été gouverné pendant 26 ans par un régime qui est assassiné à bras-le-corps. Il y a eu des camps, il y a eu des pendaisons publiques. Il semblerait que la violence, notamment qui vient de l'armée, était devenue une chose, si elle n'était pas courante, mais elle ne semblait quelque chose de, par rapport aux populations, semblait normal. Même pendant ces périodes dont je parle, où il y avait eu des violences inouïes ici, il n'y avait jamais eu de choses comme ça.
L'héritage d'années d'impunité dans l'armée, le résultat aussi de violences répétées contre les opposants et les manifestants en Guinée. La junte au pouvoir en 2009 s'est dite dépassée par les événements. Le président Dadis a assuré n'avoir jamais donné d'instructions. Mais selon Mamadi Kaba, l'ancien directeur de l'Institution nationale des droits humains, la répression a bien été planifiée et organisée.
C'était délibéré, hein. Il y avait un ordre précis. En fait, il y avait une dimension pédagogique dans cette répression. Il fallait que, après que la manifestation ait été réprimée, que plus jamais un Guinéen n'ait le courage de participer à une manifestation contre le CNDD. Donc il fallait utiliser de toutes les formes d'horreur pour faire en sorte que les populations soient terrorisées et que si cette étape était passée et qu'il n'y avait pas eu les conséquences que nous avons connues, si le CNDD avait survécu à ces manifestations, il n'y aurait plus jamais de manifestations contre le CNDD.
L'ancien directeur de l'Institution nationale indépendante des droits humains va plus loin. Il pense que les viols faisaient partie de cette volonté d'imposer la terreur.
Et vous savez, en Guinée, quand les femmes se mêlent à une manifestation, la manifestation prend une autre dimension. La Guinée, vous vous souvenez, quand, et dans toute notre histoire, il y a une fête qu'on célèbre chaque année où les femmes se sont mobilisées pour braver le régime de feu Sékou Touré, le premier président. Les femmes ont bravé le président Sékou Touré. Donc, tous les présidents ont en tête que les femmes sont capables de les braver en Guinée. Alors, si vous voulez tuer l'esprit de révolte, l'esprit de manifestation chez la population, il faut taper dur sur les femmes. Si les femmes renoncent, vous êtes en paix. Je crois que c'est ça qui est arrivé. On a voulu donner une dose supplémentaire de répression à la femme pour que la femme se retire définitivement des manifestations et le reste, on pouvait gérer.
Un déchaînement de violence pour donner une leçon aux manifestants. Une répression exceptionnelle dont les victimes portent encore les stigmates et dont les responsables n'ont toujours pas été jugés. « 28 septembre 2009, la maladie du silence », un grand reportage d'Anne Cantonner, réalisation Pierre Chaffanjon.
«